Virginie Oulanier, ce livre Rouge Argile prend place en 1979. Pourquoi l'avoir intégré à ce moment-là de l'histoire et est-ce qu'il n'aurait pas pu se passer aujourd'hui dans un présent 2011-2012?
Si, si, bien sûr qu'il aurait pu se passer maintenant. Mais je crois que j'ai un problème avec le temps présent. Il ne m'inspire pas. C'est-à-dire que ma vie à moi m'inspire. Ma vie à moi, de tous les jours, est quelque chose voilà, qui me pousse dehors, qui me fait vivre beaucoup de choses, mais qui ne me permet pas, qui pour l'instant en tout cas, ne m'a jamais inspirée au niveau de l'écriture. Il me faut un peu de distance. Et cette distance-là, elle arrive deux fois. Elle arrive donc en 79. Et puis les histoires qui sont racontées à l'intérieur du livre, qui sont sujets de Suzanne, la maman de Rosa, ou d'Egon, son père putatif, c'est dans les années 40 que ça se passe. Donc là, on est très loin de moi, et ça me permet finalement en fait d'investir un temps dans lequel je n'ai jamais vécu, avec toute aisance, parce que je peux inventer certaines choses et me laisser inspirer par des choses de cette époque-là.
Aller aussi à la découverte de vos personnages, non? J'imagine que vous les avez étoffés au fur et à mesure de la narration, de l'écriture.
Alors oui et non, c'est-à-dire que je les étoffe terriblement avant. Ils ont besoin d'être construits, d'être forts et puissants avant de passer au stade de l'écriture. C'est-à-dire que je me raconte l'histoire pendant une année à peu près, sans prendre de notes. Je laisse monter vers moi les personnages et je les laisse s'installer à l'intérieur de moi. Et quand ils sont puissants, suffisamment forts, en tout cas pour que moi, de façon consciente, je ne puisse pas leur faire faire n'importe quoi. Et qu'ils sauront donc me résister. À ce moment-là, c'est le moment de l'écriture. Parce que je les guide, évidemment, puisque c'est moi qui les crée, et que je les mets en scène, et que je leur propose de vivre des choses. Mais à partir du moment où un personnage est suffisamment construit, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas répondre à une envie que j'aurais, par exemple, au moment de l'écriture, et qui serait complètement soit anachronique, soit pas du tout dans sa façon de réfléchir à lui. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est le fait d'interpréter des personnages tout au long de l'écriture, des personnages qui sont très différents de moi, et en même temps que je sais nés de mon imagination.
J'entends bien ce que vous me dites, mais ça quand même, ça m'évoque la dimension fantasmatique que peut avoir un personnage pour donner envie d'écrire.
Oui, il faut absolument effectivement que je les aime suffisamment pour après passer une année peut-être d'écriture tous les jours. Parce que l'écriture, c'est un sport de haut niveau. Il faut être en bonne santé. Il faut avoir la tête assez libre, c'est-à-dire avoir pu faire évacuer les choses du quotidien. Et en même temps, ça veut dire se coucher pas trop tard, ça veut dire pas être. Enfin, voilà. En tout cas, moi, j'ai besoin d'une hygiène de vie au moment de l'écriture, qui est évidemment pas celle que je pourrais avoir le reste du temps.
Disciplinaire.
C'est très, oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est parfaitement disciplinaire. Et donc, je sais qu'il faut que ça aille assez vite, que je suis capable, dans l'endurance d'une année, d'écrire. Je ne peux pas écrire pendant 3 ans. Donc je m'organise pour créer cette histoire avant. Complètement, sans connaître la fin, sans connaître forcément exactement les mouvements de mes personnages et ce qui va leur arriver, mais ils existent suffisamment pour pouvoir aussi me soutenir dans des moments où j'aurai moins d'inspiration.
Virginie Aulagnier, revenons un petit peu sur le récit, les personnages propres à Rouge Argile, votre roman qui est paru cette année 2011 chez Liana Levy. Parlons de ce personnage, Egon Baum, qui est dit l'allemand juif. Qui est-il pour Rosa, ce second père?
Alors, en réalité, Egon Baum, c'est un juif allemand qui a eu l'occasion de quitter l'Allemagne en 1933-34, etc. Il a travaillé en Égypte et puis donc en 39 et 40, il fuit l'Égypte pour rejoindre le Maroc. Et il arrive donc dans les années, je crois que c'est en 41, qu'il arrive dans la propriété des parents de Rosa. Et le père de Rosa part en 1943. Puisque c'est à ce moment-là qu'on a fait la campagne d'Italie, et meurt là-bas. Donc il va succéder au père de Rosa, succéder à la ferme, dans la propriété, dans les travaux donc. Il va succéder aussi dans la vie de Rosa, à son père. Et être celui qui va lui permettre de grandir avec une référence masculine importante, et en même temps très 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 généreuse parce que l'amour qu'on a pour un enfant qui n'est pas le sien est un amour différent. C'est-à-dire qu'on a peut-être moins la sensation de la responsabilité. Et Egon est dans cette position-là, en tout cas, ce n'est pas vraiment sa fille, elle a sa mère d'ailleurs. Enfin, il joue le rôle du père. Et ils se prennent tous les deux à croire qu'il peut être le père. Mais ni l'un ni l'autre ne se retrouvent dans une situation de hiérarchie et de conflit. Voilà. Et c'est donc un père un peu particulier qui va favoriser chez Rosa, en tout cas, des thèmes qui lui sont propres, hein, à elle, et qui sont toute sa beauté.
On peut le révéler tout de suite, c'est révélé assez rapidement dans le livre. Egon est un fantôme. Pourquoi est-ce que vous lui avez donné cette forme-là et aussi une parole en tant que fantôme dans le livre ?
Alors à ça, il faudrait que je demande à mon inconscient, et ça c'est très compliqué. Quand je commence un livre, j'ai des images qui arrivent. La première image de Rouge Argile, c'est un cheval empaillé en bas d'une montée d'escalier. Et donc j'étais très embêtée, et d'autant plus que je savais que dans le coffre sous ce cheval, il y avait tous les secrets. Mais à ce moment-là, j'étais comme vous, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'étaient ces secrets, qu'était ce cheval, je ne savais rien. Et j'ai laissé grandir cette image à l'intérieur de moi, et est arrivé tout de suite le personnage d'Egon Baum. Il est arrivé avec son nom, il est arrivé complet, et je savais que c'était un fantôme. Et là, j'étais encore plus embêtée, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, la discipline d'écriture d'un fantôme n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il faut imposer un personnage qui n'existe pas. Un roman repose sur la croyance. L'histoire repose sur la croyance. Et vous faire croire, en tant que lecteur, que je vais laisser la parole à un fantôme est moins simple que de créer un personnage complet, comme Rosa, par exemple, qui pourrait avoir sa vie, etc. Simplement parce qu'il faut que vous puissiez, vous, à la première lecture, ne pas céder à « mais non, ça n'existe pas, un fantôme ». Et en même temps, ne pas tomber non plus dans le fantastique complètement, parce que ce n'était pas mon projet, ce n'était pas un projet de livre fantastique. Et ça a été très compliqué pour moi de l'installer. Donc il arrive de façon assez péremptoire, il prend la parole, et il dit qu'il laissera à personne la possibilité d'écrire son histoire, enfin de raconter son histoire. Et il est arrivé comme ça. Ensuite est arrivée Rosa. Et là, je savais qu'ils étaient l'un par rapport à l'autre. Enfin, voilà, ça s'est construit comme ça. Mais avec un personnage qui est un fantôme, j'étais bien embêtée. Parce que ce n'était pas du tout quelque chose auquel je pensais, que j'espérais. C'était vraiment... Voilà, il est arrivé comme ça. Et finalement, il s'est autorisé, puisque le personnage s'est installé, a été construit en tant que fantôme. Et finalement, donc, il s'est autorisé à prendre la parole et à parler en son nom. Et ça m'a... Voilà. Et je me suis dit après, pourquoi pas ? Mais il fallait que ça soit fort, du coup.
Mais ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous dépasse dans l'écriture, quelque chose qui dépend de votre raison, de la rationalisation de chaque chose.
Oui et non. Ah, encore oui et non. Mais simplement, je pense qu'on se nourrit en permanence des choses qui nous arrivent, des choses qu'on ressent, qu'on éprouve, qu'on touche, qu'on goûte, etc. Et que toutes ces petites choses, ces petits souvenirs s'accumulent et de temps en temps se rencontrent. Et c'est au moment de ces rencontres-là qu'ils grossissent, qu'ils grandissent et qu'ils fabriquent une histoire, en fait. Mais l'histoire, au départ en tout cas, est vraiment quelque chose de très visuel chez moi et sur lesquels je n'ai pas forcément de prise. Simplement parce que, comme je ne m'autorise pas à prendre de notes pendant cette période de réflexion, je ne m'appuie que sur ce qui reste. Il y a beaucoup d'autres personnages qui sont arrivés dans Rouge Argile au début, mais qui n'ont pas traversé la période d'écriture, qui n'ont même pas traversé une nuit. C'est-à-dire que je peux penser à quelque chose en me disant « ça c'est très très bien, ah ça serait vraiment bien pour le livre », m'endormir dessus et ne pas m'en souvenir le lendemain. Et raisonnablement, je me dis que si ce n'est pas resté, c'est parce que ça n'avait pas de place dans ce livre-là. Mais toutes les choses viennent évidemment de moi, il n'y a pas de dépossession de mes personnages. Simplement, voilà, je fais confiance à ma logique et à cette capacité de mémoire qui est très grande chez moi pour organiser les choses, parfois aussi à mon insu. C'est-à-dire, voilà, quelque chose qui disparaît, ben tant pis, ce n'est pas grave. Et quelque chose qui apparaît de façon un peu particulière comme un fantôme, eh bien tant pis, ce n'est pas grave, je m'en saisis, si ça reste.
Et du coup, une fois que vous avez réfléchi à cette histoire, qu'elle a bien mûri, que vous êtes passé à l'écriture, quelle est la part d'imprévu pendant l'écriture ?
Elle est, on va dire, de 50%. Voilà. Il y a une structure narrative dans laquelle je pense inscrire mes personnages. Je pense inscrire mes personnages. Et puis finalement, il y a un moment où ils vont bifurquer pour une raison ou pour une autre, quelque chose que je n'avais pas vu venir. Une situation dans laquelle finalement, moi, je les ai installés sans avoir prémédité ça. Et ça, c'est ce que j'aime particulièrement. C'est le moment où l'inconscient prend le dessus dans l'écriture. C'est quelque chose de très chic à vivre, très agréable. Et voilà. Et donc, c'est 50% de structure et 50% de découverte.
Comme nous, on va dans ce livre rouge argile de découverte en découverte, comme Rosa. On ne s'attend pas forcément à ce qu'on va trouver à la fin, même si on sait que Rosa va au Maroc pour se délester, enlever ses chaînes. Quelque part, ça fait résonance en nous. On ne sait pas vraiment quand même ce qu'on va y trouver. Ça, c'est super.
Mon projet était d'écrire un polar du quotidien. Avant de commencer un livre, je me donne des indications dans lesquelles je compte vraiment tenir mes personnages. Et là, c'était d'écrire un polar du quotidien. Un polar, finalement, qui c'est un livre qui est construit comme du genre policier, si ce n'est qu'il n'y a pas de police, et qu'il n'y a finalement qu'une enquête qui est construite au fur et à mesure et qui, évidemment, à la fin, révèle quelque chose auquel on ne doit pas s'attendre. Et ça, c'était vraiment très, très important pour moi. Moi-même, je ne connaissais pas encore la fin au moment de l'écriture, mais je savais qu'il faudrait que je surprenne le lecteur. Et donc, la construction, donc les 50% de construction, m'ont permis de construire quelque chose qui me permettrait ensuite d'obtenir ça. C'est-à-dire, première surprise de Rosa, elle découvre une lettre, etc. Voilà. Et elle va, elle, de découverte en découverte, c'est exactement ce que vous avez dit, parce que c'est le projet, afin d'entraîner le lecteur dans quelque chose qui ressemble à un polar du quotidien, avec une chute.
J'ai aussi pensé à... J'ai eu cette image, en tout cas, que chaque révélation, chaque découverte soulevait un petit peu une boîte de Pandore.
Il y a plusieurs boîtes dans ce livre-là. Il y a une grosse boîte qui est celle qui est toujours d'ailleurs sous le cheval empaillé, qui s'appelle Chergui, ce cheval.
Il existe, alors, bel et bien, non ?
Non, absolument pas. En plus, depuis, en fait, vraiment, ça a été première image et ce cheval est absolument sublime. Le problème, c'est que je suis allée chercher des images de chevaux empaillés et un cheval empaillé, c'est quand même vraiment très, très laid. C'est vraiment pas beau. Il n'arrive pas. Oh non, mais j'ai vu, en fait, en France, on a quelques spécimens, dont celui, par exemple, de Napoléon. Et c'est vraiment... Enfin, c'est pas beau, quoi. Oui, c'est ça. C'est exact. C'est juste moche. Et donc, voilà. Mais donc, la grosse boîte, celle dans laquelle vont être tous les secrets, c'est ce coffre qui est sous Chergui, sous le cheval empaillé. Donc, il y a cette grosse boîte dans laquelle il y a plusieurs boîtes. Il y a la boîte de Rosa. Il y a donc avec la grosse boîte lue, avec les secrets et les fantômes de Rosa. Et il y a une autre boîte dans laquelle il y a des lettres. Ces boîtes s'imbriquent les unes dans les autres et apportent chacune une réponse à Rosa pour pouvoir se libérer de qui elle est devenue, de cette Jackie Kennedy dans laquelle elle s'était perdue et qui vont pouvoir la ramener à qui elle est elle-même vraiment. Et finalement, peut-être du coup, ouvrir sa boîte à elle. La grande, celle dans laquelle elle est coincée, qui est son corps et ce maintien social dans lequel elle se trouve enfermée.
Une dernière question avant de nous quitter, parce que l'émission suit son cours et le temps aussi. On parle de boîte, de révélation. Moi, j'ai vu plusieurs facettes de la féminité dans ce livre. Je vais citer Suzanne Lanteneau, qui serait la maîtresse aimante, Suzanne, la mère de Rosa, qui serait l'épouse très vertueuse, Edmonde, qui serait l'amie, et Chérifa, la nourricière. Est-ce que c'était voulu, tout ça ?
Oui. Oui, j'avais envie. Mon précédent roman, L'Incertain, est un livre pour les hommes. J'ai pas écrit ce livre pour les hommes, mais je me suis rendu compte que finalement, L'Incertain, son public, c'est un public masculin, ce qui était très, très étrange pour moi. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de raconter des femmes. Et plutôt que d'en raconter une, il y a celle, effectivement, qui est Rosa, qui est celle de la contrainte, celle de l'héritage contraint, celle de ces contraintes qu'on se transmet de mère en fille et sur des siècles et des années, si on ne fait pas attention à ça. Et évidemment, toutes les femmes sont représentées à l'intérieur, enfin toutes les femmes. Les grands archétypes de femmes sont présents à l'intérieur parce qu'ils doivent venir s'imbriquer dans Rosa afin qu'elle puisse, elle, être une femme complète à la fin de ce roman. Voilà.
Ben ça se sent. Merci beaucoup Virginie Aulagnier d'être venue sur RCF Isère. Donc nous avons parlé de Rouge Argile qui est paru en septembre 2011 aux éditions Liana Lévy. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.